CFM Rodez, bienvenue dans le numéro 4 de Mémoire Aveyronnaise, une émission voulue et animée, co-animée par Vincent Beuzon. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Tout va bien ?
Oui, ça va, très bien, merci.
Vincent, on le rappelle, président du comité Rodez du Souvenir Français. Et on va d'ailleurs avoir l'occasion d'en reparler un petit peu dans cette
aujourd'hui, ouais.
Demi-heure aujourd'hui avec toi. Alors après Monseigneur Ginisti, les casernes de Rodez, le 122e Herry, c'était les thèmes des trois premières émissions. Cette semaine, Vincent, le thème que tu nous proposes s'intitule « Les carrés militaires du cimetière de Rodez ». J'espère que ça ne va pas être trop triste.
Non. Bah, un petit peu quand même. Il faut bien faire pleurer dans les chaumières.
Oui, puis de toute façon, oui, tu as raison, le cimetière, ce n'est pas non plus pour faire la fête.
On est bien d'accord.
Pourquoi tu as eu envie de cette thématique là, à l'occasion de cette quatrième émission avec toi ? On est à la fin du mois d'octobre, il y a à voir ou pas ?
Oui, tout à fait. C'est vraiment une histoire de date. Là, c'est le thème est vraiment choisi parce que nous sommes le 26 et le 1er novembre, autour du 1er novembre, ce week-end-là, les gens fêtent la fête des morts. Il y a beaucoup de...
Il y a la Toussaint.
Il y a la Toussaint, voilà. Alors la Toussaint, je le rappelle, c'est la fête de tous les saints.
Oui, ça je sais.
Voilà, c'est le 1er novembre.
Ça je sais.
Mais alors beaucoup de gens ont tendance à confondre. En fait, c'est le 2, la fête des morts, mais le 2 n'est pas férié. C'est la Toussaint qui est férié. Malheureusement, il faudrait écrire au président pour qu'on ait un jour supplémentaire. Je trouve qu'on n'en a pas assez. Ouais. Voilà, donc tout ce week-end-là, c'est vraiment un week-end de mémoire, un week-end où les gens se souviennent. C'est un week-end un peu particulier où les gens traversent parfois la France entière pour revenir à leurs sources, pour nettoyer, effleurir la tombe de leur famille. Mm-hmm. Je trouve ça bien, bon, même si malheureusement... C'est vrai que bon, ça devrait être fait un peu plus souvent, mais voilà, au moins un jour consacré à ça, c'est parfait. Et nous, le Souvenir Français, c'est le week-end donc, qui nous est consacré au niveau officiel, au niveau national. Oui. Nous avons notre quête nationale du Souvenir Français, avec les accréditations officielles. Hein. Oui. Et cette année, cette quête aura lieu, donc, comme d'habitude, à la porte des cimetières, les 29, 30 et 31 octobre, ainsi que le 1er novembre.
Une quête... Donc, qui va être utile pourquoi pour le Souvenir Français ?
Alors, moi, donc, je suis président de comité.
Ouais.
Le Souvenir Français, je rappelle rapidement ce que c'est, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ou se font de fausses idées. Le Souvenir Français donc, a été créé en 1887 par un Alsacien qui s'appelait François-Xavier Nielsen. Juste après la guerre de 1870, lui se trouvait en Alsace annexée par les Allemands. Voilà, tout à fait. Il s'est ému donc de voir un peu les soldats morts pour la France pendant cette guerre de 1870. Il s'est ému de les voir enterrés comme ça se faisait à l'époque, depuis des siècles et des siècles. On faisait des fosses communes, une pour les officiers, une autre pour la troupe, et on mettait tout le monde dans ces fosses communes et sans nom. Donc lui s'est ému, il a décidé d'essayer de déterrer les corps, de faire des recherches pour voir s'il pouvait les identifier, leur donner une sépulture un peu plus honorable. Il y est arrivé, hein, mais ça n'a pas plu, on peut l'imaginer, à l'occupant allemand. qu'il a expulsé.
D'accord.
Donc il s'est retrouvé en France, puisque bon, l'Alsace n'était plus française. Ouais. Et il a fondé donc cette association, le Souvenir Français, donc depuis association loi 1901, sous le haut patronage du président de la République.
Ah.
Reconnu d'utilité publique. Donc voilà, nous avons une vraie fonction avec plein de partenaires, notamment l'éducation nationale pour tout ce qui touche au devoir de mémoire, à la transmission, etc. Donc nous, notre travail principal, donc qui nous intéresse d'autant plus aujourd'hui, hein, et qui nous intéresse aussi au niveau donc des carrés militaires, on a été créé pour ça, c'est d'entretenir les tombes des soldats morts pour la France.
D'accord.
Il faut savoir que depuis quelque temps, la perpétuité pour les tombes n'existe plus.
C'est des concessions.
Je crois que c'est
70 ans.
Oh, non,
on peut faire moins, mais
je crois que c'est 30 ans.
Ouais,
quelque chose comme ça.
Ouais.
sauf si la tombe est une tombe de soldats morts pour la France, ou si dans votre caveau familial, vous avez pu rapatrier justement un mort pour la France. Là, ça change tout. Alors, il faut faire attention parce que souvent, il y a des plaques commémoratives pour des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents qui sont morts en 14-18 ou 39-45, mais c'est pas parce qu'il y a une plaque qu'il est forcément enterré dans la tombe. Souvent, c'est uniquement
C'est une plaque commémorative. D'accord.
Voilà, donc
d'accord.
Faut vraiment faire attention si vous avez une tombe familiale qui soit vraiment enterrée dedans.
Je vais pas les vérifier.
Voilà. Tout à fait. Mais on peut vérifier sur Internet.
Ah bon ?
Alors il y a des manques, oui, mais je le dis à toutes les personnes qui sont intéressées pour faire des recherches sur leurs ancêtres qui seraient morts pendant la guerre de 14-18, 39-45. Alors la résistance, c'est un peu plus compliqué.
Parce que c'était pas des militaires à proprement
c'est
parler.
Pas des militaires à proprement parler. Ouais, voilà, tout à fait. Et aussi donc tous ceux qui sont morts en Indochine, en Algérie, il existe un site très simple d'utilisation, un site gouvernemental qui s'appelle Mémoire des Hommes.
Oui.
Vous allez dans ce site, donc Mémoire des Hommes, et tout à fait en bas de page, vous pouvez choisir le conflit et vous pouvez noter le nom, le prénom. Alors, il faut faire attention au prénom, il faut que ce soit le prénom officiel.
D'accord, c'est-à-dire la liste des 6 prénoms qu'on a ou
Non, c'est le prénom officiel, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Autrefois, on a tendance à l'oublier, ceux qui font de la généalogie le savent très bien, c'est pas parce que...
Oui, on l'appelle Ginette qu'elle s'appelle Ginette.
C'est ça,
ouais,
c'est
ça. J'ai rencontré une dame assez très âgée même, il y a peu de temps. Je lui demande comment elle s'appelle pour une interview. Elle me dit, je m'appelle Ginette. Bon, puis dans la donc très bien, moi Ginette pour moi c'est un prénom quoi.
Oui,
puis dans la conversation, elle me dit, non en fait Ginette c'est pas mon prénom. Mon prénom c'est Geneviève.
Ouais.
Mais comme je l'aimais pas parce que quand j'étais à l'école, on me disait Geneviève, jeune et vieille. Bon, c'était les trucs d'enfants de l'école. Et ben j'ai voulu qu'on m'appelle Ginette. Et donc tout le monde l'appelle Ginette depuis 80 ans.
Alors oui, mais peut-être qu'elle a choisi de s'appeler comme ça.
Ouais.
Mais à l'époque, on avait toute une litanie de prénoms.
Ah ben moi j'en ai encore plein. Hein.
On a vu Monseigneur Ginisti. Monseigneur Ginisti, je sais plus. 4 ou 5 prénoms. Moi, j'en ai que 2.
David, Thierry, Jean, Maurice. J'en ai 4.
T'as gagné. Voilà. Et donc, il y avait un prénom officiel. En général, sur les listes d'état civil, c'est le prénom qui est souligné. Et il y a toute une autre litanie donc, de prénoms. Et les parents choisissaient n'importe quel prénom. Okay. Donc, il faut vraiment avoir le bon prénom.
Alors, quand on met le bon prénom dans ce petit moteur de recherche là, sur le site Mémoire des Hommes, on trouve quoi ?
Alors, on peut si on trouve donc l'ancêtre qui est mort par exemple en 14-18, on a son état civil rapide, sa date de naissance et son lieu de naissance, sa date de décès, son lieu de décès, le régiment dans lequel il était et son grade.
Voilà. D'accord.
Donc c'est quand même assez
mais on sait pas où il est enterré.
Et alors en revenant sur la page d'accueil, en bas il y a marqué sépulture de guerre et là justement on fait exactement la même recherche pour les sépultures de guerre.
D'accord.
Moi c'est comme ça que j'ai trouvé le frère de mon arrière-grand-père qui était enterré devant l'ossuaire de Douaumont.
D'accord.
Donc vraiment très pratique.
Ouais.
Autre chose pour les recherches, tant qu'on y est, je m'éloigne un peu du sujet, mais c'est vraiment utile pour nos auditeurs. N'hésitez pas aussi à aller aux archives départementales en ligne du département de naissance et vous aurez des informations qui sont vraiment très très bien. Il vous faut regarder aux fiches matricules.
D'accord.
Et en fait, vous aurez tous les régiments par lesquels il est passé, vous aurez ses états de service, vous aurez les distinctions qu'il a eues, les décorations, la mort au combat, s'il est mort au combat avec le motif, les adresses différentes de ses différents déménagements. Ça peut être amusant. Et également, moi ça m'est arrivé de trouver, notamment pour des garçons de café à Paris, des Aveyronnais qui étaient montés à Paris, des peines de justice.
Quand ils n'ont pas été sages,
c'est marqué dessus. Alors pourquoi garçons de café ? Parce que moi, ce que j'ai vu, j'en ai vu plusieurs, c'est des gens qui se faisaient attraper parce qu'ils mettaient de l'eau dans du vin pour en vendre plus de vin. Donc c'est assez amusant.
D'accord. Donc on revient à cette quête organisée par le Souvenir Français à l'entrée de tous les cimetières de France le week-end prochain autour du 1er novembre.
Oui. Donc, alors tu me demandais où allait l'argent.
Voilà, donc cet argent, tu nous as dit, c'est pour entretenir les tombes.
Alors,
entretenir le souvenir de ces tombes, c'est-à-dire que vous mettez des fleurs.
Tout à fait. Alors déjà cet argent, pour expliquer aux auditeurs, moi qui suis président de comité, le résultat de la quête déjà va être coupé en deux. Une moitié que je vais garder moi dans mon comité pour servir servir. Donc, de temps en temps, on aide certains établissements scolaires pour des voyages ou pour des tout ce qui est commémoratif. Mm-hmm. Également, ça peut être pour aider des communes qui veulent faire tel ou tel projet. Voilà, la moitié va au comité et l'autre moitié part à la délégation générale. Mm-hmm. Donc, c'est-à-dire la responsable du département au niveau du souvenir français, mmh. qui, elle, va faire exactement la même chose. C'est pour les projets du département. Voilà.
Très bien. Alors, les carrés militaires du cimetière de Rodez.
Voilà.
Revenons à notre thématique du début. Les carrés militaires du cimetière de Rodez, bon, bah, c'est au pluriel. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs.
Il y en a quatre. Oui,
quatre.
Tout à fait.
D'accord.
Il y en a quatre pour trois époques.
Alors, t'écoute parce que là.
Et oui, on se dit, à part la résistance, hein, on n'a pas connu la guerre en 14-18, on n'a pas connu la guerre en 39-45, à part la résistance. Et pourtant, nous avons quand même 197 tombes de soldats au cimetière de Rodez. Alors ça s'explique parce que, notamment pendant la Première Guerre mondiale, on a eu plus d'une vingtaine en Aveyron d'hôpitaux temporaires, yeah. auxiliaires, mixtes, voilà, etc., etc. Et malheureusement, beaucoup de soldats ont été rapatriés pour être soignés dans ces hôpitaux, rapatriés du front, et sont décédés dans ces hôpitaux.
D'accord. Également. Et du coup, à l'époque, comme ça peut encore arriver maintenant, d'ailleurs, on les enterrait sur place. On cherchait pas à savoir s'ils venaient de Bretagne. On rapatriait pas les corps.
Tout à fait. Okay. Alors, on les enterrait sur place. Il y a des entreprises qui ont été spécialisées après la guerre, pour les familles qui le souhaitaient, de pouvoir rapatrier les corps. Mmh. Mais ça coûtait extrêmement cher.
Pour les familles fortunées.
Ah oui, familles fortunées. Mmh. Et donc, on en a, notamment dans le cimetière, où je disais, vous pouvez en avoir dans vos tombes familiales, mais il y en a vraiment peu. Et au niveau hôpitaux temporaires, moi je vais citer quelques exemples à Rodez, pas la peine de citer... Au moins pour aujourd'hui tout le département, parce que je vous dis, il y en a vraiment beaucoup. Rodez, en fait, les hôpitaux temporaires et auxiliaires étaient principalement là où il y avait des lits, là où il y avait des dortoirs, donc les établissements
les écoles.
Scolaires.
Mmh.
Tout à fait. Saint-Joseph, il y a eu un hôpital temporaire. Sainte-Geneviève, l'école de garçons, le lycée de Rodez, qui est devenu après le lycée Foch, tout près de nos studios. L'hôpital de Rodez a été hôpital mixte, c'est-à-dire qu'il soignait à la fois les blessés de l'Aveyron, forcément.
Civils et militaires.
Voilà. Et aussi les militaires. L'asile d'aliénés de Parère également, avant que l'asile parte pour Kessiol. Je suis sûr que j'en oublie, mais pour les principaux, ce sont ces lieux-là.
Donc 197 militaires enterrés dans le cimetière de Rodez.
Dans le cimetière de Rodez.
Sur 4 carrés.
Alors, je vais les citer, ces 4 carrés. Quand vous allez dans le cimetière de Rodez, alors moi je vous conseille un jour, si vous, pour les amateurs d'art, pour les amateurs de patrimoine, je vous conseille d'y aller au cimetière de Rodez, notamment le service du patrimoine de l'agglomération de Rodez.
Ah oui, des visites organisées de temps en
temps. Organise des visites qui sont sensationnelles, notamment avec mon ami Jean-Philippe Savignoni, qui est vraiment extraordinaire au niveau de ses commentaires et de ses visites. Il y a des chefs-d'œuvre. Denis Puech a sculpté son propre tombeau. Vous avez des fabricants de cloches, Triadou, qui ont une magnifique cloche qui viennent de leur fonderie au-dessus de leur tombe. Vous avez des tombes historiques, vous avez des tombes qui sont magnifiques au niveau de l'histoire de l'art. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Je dirais que 3 des 4 carrés sont autour, quand on connaît le cimetière de Rodez, nous avons un cénotaphe au milieu. Alors souvent les gens appellent ça un rond-point parce qu'on peut aller au cimetière de Rodez en voiture. Donc on en fait le tour comme un rond-point, sauf qu'au milieu, il y a un monument qui est un monument pour les soldats aveyronnais qui sont morts, les soldats, je dirais même mieux, ruthénois, qui sont morts en Outre-mer. Alors, à l'époque, on disait dans les colonies. Donc là, c'est les soldats qui sont morts en Outre-mer. Mmh. Nous y allons pour faire des commémorations, notamment chaque 1er novembre, avant que la quête du 1er novembre commence. Alors nous ne commémorons pas forcément, en posant une gerbe au pied du monument, les soldats morts en Outre-mer, mais tous les soldats dans tous ces carrés militaires qui sont enterrés là, sans distinction ni d'époque, ni de conflit.
Bien sûr.
Voilà. Alors, juste à côté, donc, vous avez déjà 2 carrés militaires. 2 carrés militaires. dans plusieurs secteurs. Le secteur 11 et le secteur 17, ça ce sont... Alors le secteur 17, il faut faire attention, il est bien caché, il faut le chercher, c'est un petit peu un jeu de piste. Ce sont les deux carrés militaires consacrés à la guerre de 14-18. Mmh. Alors, le carré 11 comprend 79 tombes, et le carré militaire 17 en a une centaine.
D'accord. Donc voilà. Ça représente l'essentiel des tombes des militaires. Ah, c'est
plus des trois quarts. Ouais. Tout à fait. Alors avec une particularité dans le carré 17, vous verrez quand vous irez, les croix sont assez jolies. Ce sont des glaives qui sont plantés dans le sol, des épées même qui sont plantées dans le sol, et la garde de l'épée forme une croix. Avec en son centre un écu et le nom et le prénom du défunt, son régiment et la date de décès. Alors, dans le carré 17, il y a une particularité, il y a trois tombes où en fait ce ne sont pas des croix. Je vais vous dire pourquoi. Une tombe, parce que nous avons une tombe musulmane, mmh. D'un régiment de tirailleurs,
oui.
Et deux tombes bouddhistes. Alors, les tombes musulmanes, bien sûr, c'est le croissant et l'étoile qui est ajouré en haut de la stèle. Les bouddhistes, en fait, c'est une virgule inversée. Voilà.
Une virgule inversée, d'accord.
Alors, je pense, on voit pas trop bien, mais je pense que peut-être ça doit représenter, alors à vérifier, peut-être le yin et le yang, je sais pas. Mais ça y fait fortement penser.
Alors, ces tombes... bouddhique, donc ça serait des soldats français qui venaient à l'époque peut-être d'Indochine,
C'est ça. Ah, okay. Ils venaient d'Indochine, et eux, en fait, faisaient partie de la même unité, ils faisaient partie de la 16e section d'infirmiers.
D'accord.
Voilà, mais rien à voir avec les troupes d'Indochine.
Non, d'accord, bien sûr. Ok, donc là, si j'ai bien compris, là on en est, enfin si j'ai bien compté, on en est à trois carrés là.
Et deux.
Ouais, deux plus l'îlot central...
Ah oui, tu parlais de l'îlot central. Voilà, alors on compte pas dans les carrés. D'accord. Les carrés, c'est vraiment les endroits où il y a des tombes.
Donc il nous en manque deux avec quelques militaires seulement.
Alors oui, un peu moins du coup. Le troisième carré, c'est le secteur 18. Alors dans le secteur 18, nous avons des tombes de 39-45.
D'accord, oui.
Alors il y a des soldats qui sont morts dans les hôpitaux, mais aussi des Aveyronnais qui ont dû être rapatriés, notamment la tombe d'un soldat qui est mort en 1945 en Allemagne. Lui faisait partie du maquis Jean-Pierre.
Alors à qui est dédié le dernier carré militaire du cimetière de Rodez? On a fait 14-18, on a fait 39-45.
Alors je voudrais quand même donner quelques dates pour ce carré militaire de 39-45. Mmh. Pour donner un petit peu, c'est quand même assez large. Il y a une tombe de 1939, 8 tombes de 1940, 4 tombes de 1941, une tombe de 1944 et deux tombes de 1945.
Donc une dizaine au total.
Voilà, plus une d'un soldat mort en Indochine. Et donc le dernier carré, oui, dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le secteur 14. Le secteur 14, il est pareil, il est un petit peu caché. Il est légèrement en contrebas de la maison du gardien, pour ceux qui connaissent. C'est le carré des résistants.
Ah ouais, d'accord, ils ont un carré dédié au cimetière de Rodez.
Ils ont un carré dédié au cimetière de Rodez, tout à fait, avec 24 tombes. Mmh. Le problème de ces 24 tombes, c'est que nous en avons 17 totalement inconnues.
Voilà. C'est-à-dire, il y a une tombe, il n'y a pas de nom.
Il y a une tombe.
Ah, c'est juste un corps.
Il y a une tombe marquée inconnue. Ah, voilà. Tout à fait.
Oh, c'est terrible. On n'a jamais réussi à savoir qui étaient ces gens-là.
Et non, parce que la résistance, c'est vraiment quelque chose de très compliqué.
Ouais, puis il y avait des pseudos, puis il y avait des mecs qui étaient en Aveyron, mais qui venaient d'ailleurs.
Ah ouais, tout à fait. D'accord. Moi, quand je vois les listes d'engagement des maquis aveyronnais, on en a qui viennent de la France entière, voire de l'étranger.
Bien sûr.
Tout à fait.
Ouais, d'accord. Et on n'a jamais, cela dit, ça serait un beau travail pour un passionné, peut-être comme toi, de retrouver, d'identifier ces personnes.
Tout à fait. Mais là,
oui, non, mais Vincent, juste cette pris en ce moment. Mais je lance l'idée.
Mais là, faudrait être médecin légiste, faudrait être beaucoup de choses en même temps.
Il y en a
tout à fait.
Bon, d'accord.
Voilà, et beaucoup de et donc d'autres tombes de résistants, notamment un des premiers chefs de la résistance aveyronnaise qui s'appelait Alfred Merle, qui était patron gantier à Millau. Donc un des premiers chefs de la résistance aveyronnaise qui lui est mort pas très loin des studios aussi, rue Grandet, dans la maison de la Gestapo. Il est mort le 11 février 1944. Il est mort des suites de torture.
Ouais, sous les coups.
Sous les coups, voilà, du trop célèbre, malheureusement, Grand Luc Findman, qui était un des responsables de la Gestapo à Rodez.
Vincent, donc, en tant que président du comité Rodez du souvenir français, tu participeras à cette quête autour de ce 1er novembre dont tu nous as parlé en tout début de programme. Ça sera à quelle heure qu'on peut vous voir, vous croiser?
Alors, moi, comme tu disais, je suis très occupé, mais malheureusement.
Oui.
Mais bon, il vaut mieux ça. Hein. Quand on est passionné, c'est
quand
logique.
Quand on est au cimetière, on est tranquille.
Les voisins sont pas pénibles,
voilà,
ça c'est sûr.
Voilà.
Il y aura une permanence toute la journée.
Oui.
Donc, les 29, 30 et 31 octobre. Mmh. Moi, j'y serai le 1er novembre.
D'accord.
En général, je suis à la porte qui donne Avenue de Paris, donc toute la journée. Et pour les gens qui voudraient être présents pour les commémorations, nous avons les commémorations qui, en général, sont à 9h du matin.
Ouais.
Donc, nous commençons par un dépôt de gerbes avec les drapeaux, clairons, etc. Sur ce fameux monument au rond-point, entre guillemets, du cimetière de Rodez. Et ensuite, nous allons partir, si je ne me trompe pas, honorer deux ou trois tombes d'anciens gendarmes.
Où ça?
Dans le cimetière.
Toujours dans le cimetière.
Voilà, dans le cimetière. Donc en fait, si vous voulez assister à tout, vous êtes bien sûr les bienvenus. Hein, au contraire, je rappelle que c'est tout est une histoire de transmission et de partage. Donc soyez les bienvenus. Quand la cérémonie à 9h, quand la cérémonie au monument du rond-point sera terminée, vous aurez qu'à suivre justement le cortège et puis vous aurez les autres cérémonies.
Et
il y a, j'oubliais, c'est quand même important, le souvenir français, cet argent y contribue, fleurit les tombes aussi du cimetière de Rodez. On met une pensée au pied de chaque tombe.
Tu fais bien de le dire aussi. Hein. Donc, autour de cette quête organisée par le souvenir français autour de ce 1er novembre, on arrive au terme de ce 4e numéro de Mémoire à Véronèse avec toi, Vincent Beson. Merci beaucoup pour toutes ces infos, cette culture, ces connaissances. Hein.
Merci.
Autour des carrés militaires du cimetière de Rodez pour ce numéro 4, je rappelle que vous pouvez réécouter tous les précédentes émissions. Elles sont disponibles en podcast sur le site cfmradio.fr. La première concernait Monseigneur Ginisti, l'archevêque des Poilus. Je me souviens, créateur de l'ossuaire de Daumont. Et puis, tu nous as depuis parlé des casernes de Rodez et du 122e RI, 122e régiment d'infanterie de Rodez, mais pas seulement. C'est toute une histoire que tu nous as racontée il y a 15 jours et à retrouver en podcast. Dans 15 jours, j'espère que tu reviens.
Peut-être, oui.
Je
pense que oui.
Allez, je reviens.
C'est gentil. Est-ce que tu connais le programme, un petit peu de quoi tu nous parleras la prochaine fois?
Bien sûr.
Alors, est-ce que je peux faire une imitation?
Avec plaisir.
Alors, on va voir si j'y arrive. Je vais faire une petite imitation.
Vas-y.
Alors, tu me diras ce que ça peut être.
C'est la cavalerie, ça. Non?
Pas forcément.
C'est pas la cavalerie?
C'est plutôt l'action. C'est quoi l'action? L'action, c'est...
En avant toute.
À l'assaut, à la charge.
Ouais.
Alors, j'ai imité forcément le clairon.
Ouais.
Et je vais vous parler du clairon Roland.
Ah!
De Lacan. Le héros de la bataille de Sidi Ibrahim.
En quelle année?
1845.
Ok, parce que pour moi, le Sidi Ibrahim, ça se boit. Donc,
aussi.
Okay. Bon, bah, vivement dans 15 jours. Merci beaucoup, Vincent.
Merci à vous et prenez soin de vous et prenez soin de vos proches.